Monsieur le Président.
On a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois.
Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
J'ai laissé l'appétit de Robert Navarro pour les...
De ce point de vue-là, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français.
Aujourd'hui, c'est décidé, on met le feu. Où ça ? À l'école. Laquelle ? Celle de la République démocratique. Oui, madame, oui, monsieur, on s'interroge dans Proboscopie. Faut-il brûler l'école ? Ah ouais, parce qu'elle a failli. Elle n'instruit plus. Elle ne sait éduquer. Les parents l'ont sclérosée. Les enfants en ont fait un facteur de consumérisme, comme le dit depuis longtemps déjà le philosophe montpelliérain Jean-Claude Michéa. Coussi-coussa, notre président a décidé d'en faire une priorité. Il s'interroge, le garçon. Que faire des 60% d'inadaptés à la société ? Faut-il vraiment les instruire ? Faut-il les éduquer ? Qui doit le faire ? C'est moi ? Non, c'est toi ? Non, c'est lui ? Et les trois mondes de se télescoper. Ah, ça méritait bien une provoscopie, alors que vos députés s'ingénient à vous pondre une loi d'orientation de plus en la matière. Messieurs les représentants des trois générations concernées, dites-moi, nous vous proposons de diverger durant 90 minutes autour des trois thèmes suivants. De l'instruction publique à l'éducation nationale, quelle histoire ? Quelles sont les limites aujourd'hui de la stratégie de César en la matière ? Et que peut-on pour les générations à venir en matière d'instruction et éventuellement d'éducation ? Voilà, qui sont nos invités ? Jean-Luc Cousquer, qui fut inspecteur pédagogique national avant d'envisager, de s'envisager un avenir dans les coulisses clapassiennes au cœur de Montpellier 2020. Joël Vézinet, le syndicaliste empêcheur d'éduquer en rond. Et Robin Leroy, un jeune talentueux sorti des états généraux de la jeunesse, encore enfermé dans les arcanes d'un système scolaire qui a franchi son seuil d'incompétence. Le système, non pas lui, hein. Enfin du moins on l'espère. Enfin bonjour à tous, bonne divergence, salut messieurs, salut Jean-Luc, l'ancien, salut Joël, l'encore qui sévit, et puis salut Robin, le jeune qui n'a pas encore sévi. Et avant tout, la belette, votre belette préférée s'apprête à pousser un cri. De Ferry, Jules de son petit nom à Payon, en passant par Chevènement et Ferry, comment en sommes-nous arrivés là, rue de Tâche ? Je vous en dis pas plus. Allez, ça va être à toi la belette, après le jingle.
Le cri de la belette, par Jean-Pierre Foubert.
École, éducation, instruction, en voilà une belle institution de socialisation. Celle qui est censée préparer nos chères têtes blondes ou brunes à devenir un jour des citoyens parfaitement intégrés à la société. Socialisés, au fond. L'école publique, laïque, obligatoire et gratuite. Un beau projet dont on sait si Jules Ferry, colonialiste notoire au nom de la supériorité de la race blanche, l'avait créé pour soumettre les populations à l'ordre moral et social ou pour émanciper intellectuellement les masses laborieuses. Mais aujourd'hui, les hussards noirs de la République, armés du radicalisme laïque du petit père Combes, ont disparu. Ils accomplissent toujours leur mission, mais le mythe de l'ascension sociale liée au savoir s'est effondré. La déstructuration de la famille, qui était l'autre institution de socialisation, a transformé les instituteurs en gardes d'enfants, les privant sans doute d'un rapport à l'autorité nécessaire. Les différentes réformes touchant à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul, comme celle des rythmes scolaires, n'y ont rien fait. 20% des élèves qui sortent du primaire souffrent de carences en la matière, voire d'illettrisme total, les privant quasi définitivement d'espoir d'intégration citoyenne. Les systèmes de cartes scolaires ont privilégié les phénomènes de zoning social. Le livre de Bourdieu, qui s'intitulait « La reproduction », est peut-être encore plus d'actualité qu'à l'époque où il a été écrit il y a plus de 40 ans. Le risque est d'en rejeter la faute sur les enseignants qui n'ont, sans doute à cause des conditions qui leur sont faites, plus les moyens d'exercer leur métier, pour ne pas dire leur fonction sociale, dans de bonnes conditions. L'apport de 60 000 postes supplémentaires est sans doute une bonne chose, mais pas forcément suffisant. Ce n'est pas le contenant qui est important, mais le contenu. Il faut renforcer les moyens humains, certes, mais aussi les moyens matériels et sans doute modifier radicalement les méthodes d'apprentissage des contenus eux-mêmes, adaptés aux exigences du temps présent pour mieux préparer le temps futur. On disait qu'il existait au monde deux institutions les plus victimes d'inertie, de lourdeur et de bureaucratie, l'armée rouge et l'éducation nationale française. L'une a disparu. À quand le mur de Berlin pour l'éducation des futurs citoyens de la République ?
Bon, revenons à la raison et voyons ce que notre panel générationnel, n'en déplaise à notre ancien haut fonctionnaire, aurait à dire sur la question. Nous sommes en compagnie donc de Jean-Luc Cousquer, le Breton qui a tenté de coloniser l'éducation nationale, de Joël Vésiné, l'homonyme départementalisé à son corps défendant et néanmoins combattant par les voies syndicales au sein du même ministère, et de Romain Leroy, la souris expérimentale en voie d'instruction, si ce n'est d'éducation. Parole maintenant à notre panel provoscopien, mais avant tout, on va parler un tout petit peu de vin. Quel est ce flacon que vous nous avez apporté qui devrait flatter nos sens ? Ah, d'abord, le flacon qu'on boit, c'est celui de notre Breton, donc Jean-Luc Cousquer, qui a dérogé quand même à la tradition dans l'émission. Il nous a pas apporté un vin du Languedoc, mais un vin de son pays. Alors Jean-Luc, c'est quoi que tu nous as apporté ?
Ben, c'est un muscadet du pays nantais, muscadet sur Lys, parce qu'il faut... savoir qu'il y a du vin en Bretagne, c'est ce vin-là, avec aussi un autre qui est le gros plan. Savoir que...
Il est vraiment colon, le garçon. Nantes, c'est pas en Bretagne, hein, c'est dans le Pays de Loire.
Ah, Nantes, c'est le sud de la Bretagne, quoi.
Ah bon, je sais pas.
La Bretagne, ça va jusqu'à Bayonne, à peu près.
Je sais pas, d'accord, oui, d'accord.
ce qui regroupe largement la superficie de l'Occitanie, si je comprends bien. Il y a absolument un conflit à la frontière.
Absolument, oui, oui. Et donc ce vin est un vin agréable à boire, certes, avec des huîtres, au bord d'un port, avec des crevettes, avec des crabes, etc. Bon, ici, on n'a pas de porc, on n'a pas de crabe, on n'a pas d'huîtres, mais on a le vin, quoi. Alors je vous propose de goûter. C'est à la fois très, très sec, c'est peu de degrés, mais c'est agréable.
Voilà, et donc c'est Plessis Duval, hein, ce que tu nous as apporté. Au niveau muscadet, c'est vrai, même ça se trouve sur Montpellier, ça ?
Oui, bien sûr. Oui,
de cette cuvée, quoi. Cette cuvée se trouve sur Montpellier. Oui, oui, oui. Très bien. Bon, eh ben, fille du vin, passons maintenant à la question de l'instruction publique, l'éducation nationale, quelle histoire ? Bon, posons les mots avant tout. On instruit quelqu'un et on éduque le peuple. On instruit en communiquant des connaissances à quelqu'un, on éduque pour faire apprendre les usages de la société. L'un est instituteur, l'autre est éducateur. Si je suis instruit, j'ai de quoi comprendre le monde. Si je suis éduqué, j'ai de quoi me conformer au monde. Dans un cas, je suis formé, dans l'autre, je suis, on va dire, conformé. Ne serait-ce pas pour cela que l'État est passé de l'instruction à l'éducation ? Freudien, n'est-il pas ? Alors, quelle était la mission de l'instruction publique au-delà de 1881-82 ? Une mission noble. Donner aux chères têtes blondes les outils pour comprendre le monde, en sachant lire, écrire, compter, et en ayant une certaine culture générale. Est-ce que c'était la bonne solution à l'époque, celle de Jules Ferry ? Et on verra après où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Jean-Luc, tout d'abord, qui a connu presque Ferry, quoi.
Oui.
Plus
oui,
son
oui.
Grand âge.
Presque. En tous les cas, j'ai bien connu sa femme, sa fille et son arrière-arrière-petit-neveu.
oui, qui fut ministre.
Qui fut ministre, Luc. Non, mais par rapport à cette question, moi, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que l'éducation ou l'instruction, c'est d'abord une politique et d'abord une volonté politique. Et quand, à la fin du XIXe siècle, la Troisième République veut faire de l'instruction publique obligatoire, laïque, etc., gratuite, elle le veut surtout pour des raisons politiques, de façon à conforter, de façon à fonder la République de manière définitive. Et donc,
il y avait confusion un peu d'entrée entre éducation et instruction et éducation.
Pas confusion, mais enfin, je pense que le but, il est d'abord politique, assurer la pérennité de la Troisième République. Il faut voir que tout le XIXe siècle, c'est une alternance, empire, monarchie, république, etc. etc. Et que donc, à un moment, à la fin de ce XIXe siècle, un certain nombre de gens, dont Jules Ferry, se disent « il faut que l'État se donne les moyens de faire partager de manière durable les idées de progrès, les idées de... de... »
Ouais, faire des patriotes nationalistes, va-t-en-guerre et cher à canon, quoi.
Ça va de pair
avec la colonisation, etc. Vous ne pensez pas aussi qu'il y avait une connotation économique, hein, en ce sens où, effectivement, c'était le début d'une zone de l'industrialisation, une grande confiance, justement, au progrès technique, et donc un besoin pour l'économie... disons, d'avoir des têtes pensantes, des tas de gens instruits, en fait, je veux dire.
Et Joël, qui fut instituteur, est-ce qu'il n'y aura pas comme un regret de ce que pouvait être l'école à l'époque de Jules Ferry par rapport à ce qu'elle est devenue ?
Oui, mais avant Jules Ferry, je voudrais souligner que la pensée et la réflexion des républicains concernant les questions d'éducation, elle remonte à la Révolution française, puisqu'il y a un apport, une contribution qui me semble majeure et importante de quelqu'un comme Condorcet, par exemple.
J'allais dire Condorcet sort de ce corps.
Oui, qui disait d'ailleurs, et bon, j'ai plaisir à rappeler cette vision que définissait Condorcet de l'école.
Me dis pas que t'es franc-mac toi aussi, non ?
Non.
Ça suffit.
Former des citoyens qui ne s'en laissent pas compter, mais qui entendent qu'on leur rende des comptes. J'aime bien cette formule qui définit assez bien ce que doit être la visée et les missions de l'école. Et quand on voit aujourd'hui ce que sont les préconisations à l'échelle de l'Union européenne concernant les politiques éducatives, je me dis qu'on est très très loin de cette vision assignée, disons, aux fondateurs d'une école de l'idée, d'une école de la République permettant un égal accès de tous les enfants sur tout le territoire de la République.
Et puis Robin, notre jeune souris expérimentale ou expérimentée, comment est-ce que tu as vécu, toi, l'enseignement primaire, et au-delà, l'apprentissage du lire, écrire, compter ? Est-ce que tu as vraiment été obligé de te débrouiller tout seul ou est-ce que vraiment tu as eu des enseignants qui t'ont aidé à l'apprentissage ?
Alors juste avant de parler donc de mon parcours primaire, je veux juste revenir sur la fin du 19e siècle. Là. Il ne faut pas non plus oublier que si Jules Ferry a créé l'école publique laïque obligatoire, c'était aussi pour créer, finalement, pour finaliser de créer la nation française qui était encore divisée et pour éviter, pour donner un socle commun aux enfants de France qui ensuite seront des Français et non plus des Bretons.
C'est vrai que la base était interdit de cracher par terre et de parler en patois,
voilà,
dans l'école.
Donc c'était aussi une manière de finaliser la nation française. Et sinon, concernant mon parcours, je dirais que j'ai été privilégié parce que j'ai toujours été dans des petites écoles avec des effectifs normaux, pas non plus minimes, mais normaux, donc pas des classes à 40 élèves.
Nous fûmes dans des classes à 40, 45, 50, j'ai même souvenir, 53 élèves.
Mais aujourd'hui, c'est
plus possible. Mais à l'époque, on nous apprenait vraiment à lire, écrire, compter, ouais. C'était pas un problème.
Mais aujourd'hui, ça c'est plus possible du tout.
Pourquoi ? Parce que les enseignants sont devenus incapables ?
Non,
ou...
pour moi, c'est pas un problème d'enseignement, c'est un problème de mentalité au niveau des parents qui ne soutiennent pas les enseignants.
Ah, qui ne soutiennent pas les enseignants, non. Ou les enseignés, et qui soutiennent trop les enseignés.
Oui, peut-être, ouais.
Bon, donc faut virer les parents de l'école.
Ouais.
Bon, on va
non, au contraire, faut mieux plus les impliquer.
C'est pas pareil.
Plus les impliquer du côté des enseignants et pas des enseignés.
Ouais, mais alors du coup, pourquoi il faut former les parents ? Faut créer une école des parents ?
Pourquoi pas ?
Bon.
Ils ont déjà été déformés avant.
Et pourquoi est-ce qu'il en serait différemment aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que, en gros, cette école de Jules Ferry n'est plus pertinente aujourd'hui ? Jean-Luc, là-dessus. Ouais,
on arrive à la fin du 19e, au début du 20e siècle, dans une période d'essor économique, d'essor culturel, d'essor civique, etc., qui est extraordinaire, et où l'école, les hussards noirs de la République, enfin, sont véritablement un levier d'une activité et d'une efficacité absolument redoutable. Vous pensez qu'à cette époque-là, chaque commune doit construire une école en dur, doit abriter, loger un instituteur ou deux ou trois ou quatre, etc., que la plupart des communes le font, mais qu'il y en a un certain nombre qui résistent très très fort et qu'il faut amener la troupe, quoi, pour, dans certains pays, des pays de Loire ou ailleurs, obliger l'ensemble...
Des... Là, il dit des pays de Loire, il ne dit plus la Bretagne. Il veut parler de la Vendée, là.
Parce que c'est les pays de Loire, ce n'est pas la Bretagne. La Bretagne a peu été réticente à l'école publique.
C'est en dessous de Bayonne.
C'est au-dessous... c'est en dessous de... Exactement, oui.
Alors, d'autre part, en regardant un petit peu, en préparant l'émission, je me suis aperçu qu'on était passé du ministère de l'Instruction publique au ministère de l'Éducation nationale en 1931. Et là, encore une fois, vers tous les trois, est-ce que vous avez une raison raisonnable pour laquelle on serait passé de l'un à l'autre en 1931? Ça me semblait assez bizarre. Je me serais attendu à ce que ce soit plutôt après la Seconde Guerre mondiale, voire même après 68, qu'on soit passé de l'un à l'autre. Or, c'est en 1931. C'était bien avant 68. Jean-Luc, c'était une réponse, une raison raisonnable qui aurait fait qu'on aurait décidé ça en haut lieu.
J'ai un élément d'information, c'est que c'est dans des ministères des années 30, hein, alors entre 30 et 36, que sont constitués pour l'essentiel les grands concours de recrutement, sont constitués les découpages...
Ah ben le grand concours, le CAPES, c'est en 1950.
Non, des agrégations. C'est-à-dire les découpages histoire... qu'on va mettre avec la géographie, le découpage sciences naturelles, etc. etc.
Tu ne serais pas agrégé, toi, des fois ?
C'est un philosophe, Léon Brunswick.
Tu ne serais pas agrégé, toi ?
Non.
Ah, tu n'es pas agrégé ? Non. Pourquoi ? Parce que tu fais une différence peut-être entre les agrégés, c'est le grand corps, et puis les capétiens, c'est une espèce de presque d'intérimaire, quoi.
Parce que quand je passe mon CAPES en 69-70, l'agrégation et tout ce qui représente le pouvoir intellectuel institué, je le regarde de très haut et de très loin, quoi. Et donc, je ne passe pas l'agrégation, j'ai le CAPES, je le garde,
par peur de l'échec.
Fonctionne tout de suite.
Par peur de l'échec ?
Pas du tout, par peur de l'échec, par dédain de ces espèces de... médaille, voilà quoi. Enfin, c'est l'esprit tout à fait 68 ans.
Ah d'accord. T'étais 68 ans.
Ah bien sûr.
Bon.
64-65, je suis membre du Bureau national des étudiants socialistes unifiés.
D'accord. Effectivement, donc c'était mal barré d'entrée quoi. Bon. selon vous, pourquoi est-ce que l'État a considéré qu'il devait, en plus d'instruire, éduquer la jeunesse? Et là, je m'en retournerai vers celui qui fut instite. Est-ce que ça a un sens dans l'école primaire de vouloir éduquer les gamins au-delà de les instruire ?
Je ne sais pas s'il ne s'agit pas là d'un faux débat. Il me semble qu'opposer la notion d'instruction à la notion d'éducation ne me semble pas très pertinent. Et même, au-delà du changement que tu signalais, c'est-à-dire la création d'un ministère de l'Éducation nationale en lieu et place d'un ministère de l'Instruction publique, je continue à penser que l'école a continué à assumer de manière très correcte pendant un certain nombre de décennies après 1931 cette fonction d'instruction.
L'instruction, oui.
Il y a, je pense, une dimension, la dimension d'éducation. Je pense qu'on ne peut pas cloisonner comme ça aux parents la responsabilité d'éduquer et aux enseignants la responsabilité d'instruire. Je crois que ce clivage-là ne me semble pas pertinent. Il faut, dans un équilibre à trouver...
C'est côté presque freudien. C'est-à-dire qu'il faut, au travers de l'éducation, faire des gens qui soient conformes au monde.
Mais quand on fait de l'éducation civique, et on en a toujours fait, contrairement à ce que l'on entend comme quoi l'école ne ferait plus d'éducation civique, mais elle a toujours, elle n'a jamais cessé d'être présente. Alors on peut en discuter après le contenu, mais dans les programmes d'enseignement, l'éducation civique n'a jamais cessé d'être présente. Il s'agit bien là d'une œuvre d'éducation, c'est-à-dire de former des citoyens conscients, des citoyens éclairés, des citoyens émancipés.
Ça c'était jadis.
Dans la théorie, dans la pratique, c'est assez différent. Je parle surtout au niveau collège puis lycée. que les cours d'éducation civique sont dans le programme, sont même dans l'emploi du temps, mais dans la pratique, et pourtant je suis dans un lycée privé qui, on va dire, est réputé être entre guillemets plus sérieux, même si en pratique c'est pas forcément ça du tout, les cours d'éducation civique, les professeurs qui s'en chargent sont souvent les professeurs d'histoire-géographie et s'en servent souvent pour rattraper leur programme en histoire et en géographie. Donc les cours d'éducation civique, en pratique, ils ne sont pas vraiment là.
Oui, Jean-Luc.
Non, je veux juste revenir parce que c'est un point important du sujet. C'est-à-dire que c'est dans les années 30 à peu près. C'est un philosophe qui s'appelle Léon Brunschvig qui est directeur de cabinet ou je ne sais quoi, conseiller d'un des ministres de l'Éducation et qui découpe les disciplines et les programmes tels que nous les connaissons pratiquement aujourd'hui. C'est lui qui fait le français, la philosophie, l'histoire et géographie, etc., etc. Et c'est vrai que depuis cette époque-là, on a un peu modifié ces grands domaines disciplinaires, les concours qui y mènent, les programmes qui y conduisent, mais on n'a pas fait de redécoupage de fond. Or, ça a quasiment plus de 80 ans.
Il y a eu un redécoupage de fond qui a été fait en matière d'instruction civique, puisque sous la Troisième République, les trois chapitres qu'il y avait au niveau instruction civique, le premier chapitre s'appelait le travail, le deuxième la famille et le troisième la patrie. Et donc, ce que Pétain...
C'est la parenthèse la plus sinistre qui soit, quoi.
Oui, c'était le programme, quand même. Donc ça a été redécoupé, quand même, après la libération.
Oui, oui, oui.
Pas le choix.
Non, mais ce que...
L'école a toujours été, quand même, un instrument de modelage, disons, de la société. Hein. Et en fonction des écoles, c'est logique qu'elle ait évolué. Hein. Mais, puisqu'en fonction des en fonction des époques... Effectivement, les politiques ou les gouvernants se sont servis de l'école, effectivement, pour asseoir un pouvoir. Hein.
Mais justement, est-ce que l'évolution de l'école ne serait pas en retard, maintenant ?
Et oui, et puis, après 68, il semblerait que ce soit après 68, où l'école, me semble, c'est quelque part substitué à la famille, en matière d'éducation, non pas d'instruction, mais d'éducation. Est-ce que c'est pas là le problème ? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école que de substituer à la famille, parce que la famille aurait démissionné pour quelque raison que ce soit ? Et est-ce que c'est quelque chose qui se sent ou se ressent dès l'école primaire, Joël ?
Non, mais je crois que l'école, elle ne peut pas fonctionner en vase clos. Je crois que quelque part, l'école, elle est le reflet de la société, des inégalités sociales qui la traversent, des situations de souffrance. Alors, c'est un peu facile de dire que les parents sont déresponsabilisés, etc. Je crois qu'il faudrait mettre ça en relation aussi avec la dégradation des conditions de vie et d'existence d'un nombre de plus en plus grand de personnes.
Ça se sent pas donc dans le primaire. Et quand on le voit dans le secondaire, dès le collège, ça se sent véritablement. Combien de familles vont trouver l'école, notamment les conseillers principaux d'éducation, dans la série « J'y arrive plus, faites quelque chose pour nous, quoi. J'arrive plus à l'éduquer, c'est-à-dire à ce qu'il soit... poli, et poli dans la définition du Robert de 1880, c'était dans la rubrique civilisé. Civilisé signifiait rendre poli. Bref, les parents n'arrivent plus à civiliser leurs enfants et demandent presque à l'école de le faire à leur place. Alors peut-être ça ne se rencontre pas au primaire, mais dès le collège, enfin Jean-Luc qui a fréquenté les collégiens de façon indirecte, on va dire, mais est-ce que c'est pas quelque chose que tu as ressenti ça, c'est ces parents qui demandent au système de pallier à leurs incompétences
ou qui demandent pas justement.
Ou qui ne demandent pas, mais où l'école s'est arrogé ce droit d'éduquer en lieu et place des familles.
Oui, moi je serais plus nuancé quand même. Parce que je pense que c'est pas tellement le fait que les parents ont démissionné, c'est le fait que le rapport de la famille au travail, par exemple, au niveau de vie, etc., a fait qu'il y a eu une féminisation du monde du travail, et qui fait que effectivement les parents disposent de moins de temps. Je ne pense pas que les parents confient leurs enfants aux instituteurs, pardon, aux profs du secondaire, pour les rendre plus polis. Je pense que leur problème problème, c'est de demander à un instituteur d'éduquer un enfant pour qu'il soit dans la norme, dans la famille, et pas à l'extérieur. C'est pas d'être poli partout. Par contre, je reviens sur ce qui a été dit sur la rupture qui aurait pu avoir lieu en 1931. Au début du XXe siècle, on trouve dans des livres d'apprentissage à la lecture, je citerai deux exemples, où on explique que comment un bon ouvrier est quelqu'un qui soulève sa casquette quand il croise son patron. C'est authentique, c'est cité par Estable et Baudelot dans un texte jadis célèbre. Et je citerai le Tour de France par deux enfants.
De Bruno.
Qui est vraiment le modèle du genre. Avant.
Qui a sévi jusqu'en 1972.
Non mais
dernière édition, 72.
Avant, par exemple, 1905. Les deux enfants font le Tour de France et ils arrivent de la frontière de l'Alsace-Lorraine en pleurant parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur cousin qui est de l'autre côté de la frontière, etc., puisque l'Alsace-Lorraine est encore allemande. Et donc, c'est vraiment une préparation au fait que ces cousins doivent faire partie de la République, etc. Et chose assez intéressante, avant 1905, quand ils vont voir une tante qui est malade, je ne sais plus où en France, il y a un crucifix au-dessus du lit. Si vous prenez l'édition d'après 1905 et avant la Première Guerre mondiale, le crucifix a disparu au-dessus du lit. Donc je pense qu'il y avait, même avant 1931, cette confusion qui me semble, d'ailleurs Joël le disait très bien, qui me semble normale entre éducation et instruction, mais je pense que l'école est d'abord un phénomène de socialisation. Elle apprend à lire, à écrire, à compter, on est d'accord. Mais ça, c'est l'histoire.
Oui, enfin, avant, elle devait former des citoyens, et maintenant, je suis d'accord.
Mais aussi, il y a qu'à écouter les discours officiels.
Des jeunes bien en phase avec la famille.
Si on écoute le discours officiel, on a toujours ce discours qui est, à mon avis, erroné, qui est que l'éducation nationale, c'est le meilleur instrument d'intégration. Mais pas uniquement pour les enfants d'immigrés, etc., etc.
Et le problème, est-ce qu'il n'est pas européen ? En ce sens que, à l'époque de Jules Ferry, il était question de fabriquer des patriotes nationalistes va-t-en-guerre. Et qu'aujourd'hui, ben justement, ça ne peut plus le faire. Et donc, en fait, est-ce qu'on n'est pas passé d'un processus guerrier à un processus pacifiste ? Et notamment, peut-être 1931 explique. C'est encore l'époque d'Aristide Briand.
C'est le rapport à la société, quoi. L'école est en rapport avec une société, elle évolue et la société évolue encore plus. Pour le gamin de collège, qu'est-ce que c'est ? C'est un gamin qui est en crise, c'est un ado. Et là, bon, c'est indépendant, c'est la crise de l'adolescence.
Oui, mais ça, c'est presque une lapalissade, ça a toujours été.
Il y a beaucoup de choses qui ne sont que des lapalissades, mais qui sont tout à fait intéressantes et importantes à poser. Donc le gamin ado, il est en crise. Et en plus, il est en crise dans un système qui lui-même est en crise, et dans une société qui elle-même est en crise. Donc il y a un tel cumul de contradictions, d'incohérences, de dissensions, etc., que... actuellement, quoi. Ce niveau de scolarité, mais en même temps ce niveau d'éducation des enfants par la société, par la famille, par tout le monde, etc., pose véritablement problème. Parce que perte de repères, parce que, comme tu l'évoques, est-ce qu'on a une référence nationale, patriotique ? Est-ce qu'on a une référence européenne, mondiale ? Enfin voilà, il y a toute une série de questions qui, là, actuellement, sont complètement disjointes, décalées les unes par rapport aux autres, alors que au beau temps, entre guillemets, du tour du monde des deux enfants, ou de Jules Ferry, etc., tout était cohérent, tout était lisse, tout allait marcher ensemble. Il s'agissait de coloniser, d'apporter le progrès partout, de reconquérir l'Alsace et la Lorraine, etc., etc.
One, two, three, check. It's okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.